journal. Bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des assiettes mal remplies. Qu'est-ce qu'on mange quand on vit sous le seuil de pauvreté? Préoccupation majeure des Français les plus précaires. Selon le Secours Populaire, avant la présentation du plan pauvreté jeudi, ces paroles d'exclus, Emmanuel Macron les a entendues pendant 5 heures hier dans un centre d'ATD Quart-Monde. Et quand le premier de cordée dévisse, le président perd 12 points de popularité selon notre sondage Odoxa. Son premier ministre, Édouard Philippe, s'en sort mieux. Et la droite, dans tout ça, comment surfe-t-elle sur cette impopularité? Question à votre invité à 8h20.
Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, invité du grand entretien, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter.
À la une également, divisé pour mieux régner, le rap d'Olivier Besancenot contre la politique d'Emmanuel Macron. À Barcelone, nouvelle journée de mobilisation des indépendantistes aujourd'hui pour la fête nationale. Le blues des éleveurs de viande à l'heure où les Français mangent de moins en moins de steak. Et la renaissance d'un théâtre parisien, la Scala, 145 ans d'histoire.
France Inter.
Une visite sans journaliste, sans caméra, sans ministre. Emmanuel Macron en immersion dans un centre d'ATD Quart-Monde en Seine-Saint-Denis hier. La longue visite n'était pas à l'agenda officiel, mais l'Élysée a savamment communiqué dans la soirée, à 2 jours de la présentation du plan pauvreté, attendu depuis de longs mois. Récit de cette rencontre, récit de la présidente d'ATD Quart-Monde, Claire Lédon, avec Philippe Randé.
C'est une demande qu'on avait faite il y a un an et qui du coup a pu aboutir. Et à notre grande satisfaction, le président de la République a passé finalement 5 heures dans ce centre d'hébergement. Il nous a dit à la fin qu'il avait beaucoup appris et je pense qu'il a été effectivement surpris de la quantité des dysfonctionnements de l'État. Il y en a une qui a dit « j'ai vraiment l'impression d'être née du mauvais côté du mur » et qu'il y en a d'autres autour de cette table, parce qu'il y avait aussi des gens comme moi et des alliés, qui sont nés du bon côté. Et je pense que c'est quelque chose de très vrai. Il a pris du temps pour écouter, poser des questions, s'intéresser réellement aux personnes. Nous, on espère que ça aboutira à un changement au sommet de l'État dans la lutte contre la pauvreté.
9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Ce chiffre, très concrètement, il parle de la difficulté à se loger, à se chauffer, à s'éclairer ou à manger. 5 fruits et légumes par jour, c'est juste un slogan quand on gagne moins d'un millier d'euros par mois. C'est la conclusion du 12e baromètre du Secours Populaire sur la perception de la pauvreté. Quand on n'a pas les sous, les assiettes aussi sont pauvres, Mathilde Himy.
Un quart des Français interrogés a du mal à se nourrir correctement et à manger tous les jours fruits, légumes et poissons frais. Une situation qui s'aggrave chez les familles les plus modestes et qui touche aussi une partie de la classe moyenne. Ils sont de plus en plus nombreux à sauter un repas ou à acheter des produits caloriques pas forcément bons pour la santé. Une personne interrogée sur 5 reconnaît aussi avoir des difficultés pour payer la cantine des enfants. Les Français malmènent leur frigo car c'est l'une des seules variables d'ajustement quand on a déjà rogné sur le budget vacances. 41% a du mal à partir une fois par an en congé. Ils sont même 2/3 pour ceux qui gagnent moins du SMIC. Autre chiffre préoccupant, d'après le Secours Populaire, le nombre de personnes renonçant à des actes médicaux mal remboursés fait un bond par rapport à l'an dernier chez les plus démunis. Les fins de mois sont devenues de plus en plus difficiles. La moitié des personnes sondées gagnent juste ce qu'il faut pour boucler son budget et n'arrivent pas à mettre un peu d'argent de côté.
Les chiffres de la pauvreté en France sont sur franceinter.fr.
8h04, Florence, citation. En cette rentrée, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République? Point d'interrogation.
Question posée par Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale à 1 millier de personnes. Et la réponse est édifiante. Ils sont seulement 29% à dire oui, soit 12 points de moins qu'au mois de juin. Jamais l'Institut n'avait enregistré une telle baisse sur une seule vague de sondage. Yael Gauze, l'été, c'est confirmé, a été meurtrier pour le président.
De Benalla aux tergiversations sur le prélèvement à la source, l'été s'est transformé en toboggan. Emmanuel Macron chute dans toutes les catégories, sauf chez les sympathisants de La République En Marche. Les électeurs de droite, jusque-là bienveillants, décrochent. 23 points de popularité en moins depuis juin. Ils étaient 1 sur 2 à le soutenir au printemps. Plus problématique encore, c'est le Premier ministre qui s'en sort le mieux, moins 5 points. Édouard Philippe attaque la rentrée moins abîmé que le président. Après 2 semaines chaotiques, Emmanuel Macron a voulu voulu reprendre les choses en main. Mais là non plus, pas d'effet positif. Près de 6 Français sur 10 auraient souhaité un changement d'ampleur et pas du poste pour poste. François de Rugy à l'environnement et Richard Ferrand, candidat au perchoir, recueillent respectivement 56 à 58% d'indifférence. Et au classement des personnalités qui suscitent le plus d'adhésion, ce sont même deux démissionnaires, Laura Flessel et Nicolas Hulot, qui sortent en tête. Un tableau sombre qu'il faut nuancer. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez suscitent 2 à 3 fois plus de rejet que d'adhésion. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console.
Justement, l'Élysée se réorganise après l'affaire Benalla, le numéro 2 de Pôle emploi. Jérôme Rivoisi, issu de la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA, est nommé directeur général des services de la présidence. Selon Le Monde, la fonction n'existait plus depuis Nicolas Sarkozy. Et contre la politique d'Emmanuel Macron, un rap comme un tract, ce matin signé Olivier Besancenot, est posté ce week-end sur les réseaux sociaux.
Les uns contre les autres, ils nous dressent, nous stigmatisent, nous oppressent. En victime, voudrait qu'on pose, sans ta cause effet, jamais aux causes. Pouvoir non partagé, richesse non partagée, 8 milliardaires au sommet, 3 milliards et demi se font spolier. Financé pas que boulet, sponsor officiel de l'Elysée. Placé pion sur l'échiquier. Dans les médias, beaucoup de chiquets.
Voilà, et tu voudrais qu'on reste tranquille après tout ça, poursuit Besancenot dans cette petite chansonnette. C'est lui qui la présente comme ça, intitulée « Divisé pour mieux régner ». On savait que le porte-parole du NPA était amateur de ce genre de prose, présent dans un album de Joe Star il y a 7 ans. Le premier bilan des ordonnances travail, entré en vigueur il y a 1 an, ce sont les résultats des toutes premières décisions d'Emmanuel Macron. Eh bien, le recours au prud'homme ont baissé de 15% avec le barème obligatoire des dommages versés aux salariés licenciés abusivement. Il y a aussi eu 9000 accords de fusion des CECHSCT et des délégués du personnel, ce qui est plus que prévu. Et 66 ruptures conventionnelles collectives, ces licenciements négociés sans motif économique. Mais pas d'amélioration pour l'emploi en ce deuxième trimestre. L'INSEE nous apprend ce matin que les créations d'emplois stagnent, seulement 12 500 emplois créés au premier trimestre 2018.
À l'étranger, l'ONU réunit de nouveau son conseil de sécurité sur Idlib aujourd'hui.
L'ONU qui craint la pire catastrophe humanitaire du siècle si le régime de Damas attaque l'ultime grand bastion insurgé de Syrie. Et quand il attaque, Bachar el-Assad ne le fait pas tout seul. Il a les Russes derrière lui, l'armée russe, qui lance aujourd'hui de gigantesques manœuvres militaires. 300 000 soldats déployés avec un contingent de l'armée chinoise, dénoncé par l'OTAN comme la répétition d'un conflit majeur. Claude Brouillot, à Moscou pour France Inter.
Au-delà des contingents records de soldats d'infanterie, de la marine ou encore de l'aviation, l'armée russe va surtout profiter de ses manœuvres lointaines pour déployer ses derniers équipements les plus sophistiqués. Des missiles Iskander, par exemple, déjà installés à Kaliningrad à l'ouest, seront de sortie en Sibérie orientale, les derniers modèles de chars d'assaut T-90 également, ou encore les avions de combat Sukhoi 35. Le tout sous les yeux d'observateurs occidentaux conviés à assister aux démonstrations au cours desquelles sera figuré un ennemi venant de l'ouest, sans autre précision. Sergueï Shoigu, le ministre russe de la Défense, ayant demandé, je cite, « des situations d'évolution sur les théâtres d'opération aussi proches que possible de la réalité d'un conflit armé ». Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Et Vladimir Poutine viendra lui-même assister à ces manœuvres. Aux États-Unis, la côte Est se prépare à l'arrivée de l'ouragan Florence, puissance 4 sur une échelle de 5, avec des vents de plus de 200 km/h et des inondations redoutées en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Virginie. En Caroline du Sud, 1 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. L'impact aura lieu après-demain. Combien seront-ils dans les rues de Barcelone aujourd'hui? Ils étaient 1 million l'an dernier pour la fête nationale catalane. La Diada a réclamé l'indépendance. Dans la foulée, le référendum d'autodétermination, la reprise en main de Madrid, la crise politique, l'exil et l'emprisonnement de plusieurs leaders indépendantistes. Leurs partisans se battent toujours pour réclamer leur libération. Olivier Poujade est à Barcelone pour France Inter.
L'hymne catalan pour une poignée d'irréductibles, la ferveur de l'an dernier a laissé place à l'amertume. Le rêve d'indépendance ne semble plus d'actualité, ils se battent désormais pour obtenir la libération et le retour de leur leader. 7 sont en exil, 9 ont été placés en détention, injustement emprisonnés d'après Judith.
Ils risquent des peines plus importantes que s'ils avaient tué quelqu'un. Certains risquent 30 ans pour être montés sur une voiture. C'est un procès politique. La seule option que nous laisse l'État espagnol, c'est la voie unilatérale. Ces gens-là ne négocient pas. Ils ont une mentalité impérialiste, j'allais dire française. Pour eux, négocier, c'est céder.
Eux non plus ne veulent pas céder. Ils n'attendent rien du changement de gouvernement à Madrid. Le socialiste Pedro Sanchez a pourtant ouvert la voie au dialogue. Assunta n'y croit pas.
Rien ne va s'améliorer parce que ce que nous voulons, c'est devenir une république. Et ça, ils ne nous l'accorderont pas. Ils n'ont qu'une chose en tête, une seule Espagne, indivisible. C'est une vision franquiste, encore présente aujourd'hui.
Allergiques au pouvoir central, privés de leur leader, les indépendantistes catalans semblent aujourd'hui à court de stratégie, mais ils refusent d'abandonner la rue. Barcelone, Olivier Poujat, France Inter.
En France, elles seront jugées aux assises pour avoir préparé un attentat il y a 2 ans. Et ce sera le premier procès d'un commando de femmes djihadistes. Des femmes qui avaient, entre autres, garé une voiture pleine de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. Sarah Guibaudot.
C'est un patron de bar qui avait donné l'alerte en voyant la voiture stationnée avec ses feux de détresse sans plaque d'immatriculation. À l'intérieur, 6 bonbonnes de gaz qui auraient pu causer un carnage sur les terrasses voisines. Inès, 19 ans à l'époque, n'a pas le permis et a maladroitement conduit la voiture jusqu'à Notre-Dame. Mais la cigarette qu'elle a jetée à l'intérieur n'a pas mis le feu. Son erreur, avoir renversé du diesel qui s'enflamme difficilement. Sa complice, une mère de famille rencontrée via les réseaux sociaux, sera rapidement arrêtée. Inès, elle va rejoindre 2 autres femmes pour préparer un nouvel attentat guidé par le djihadiste Rachid Kassim en Syrie. 4 jours plus tard, des agents du renseignement intérieur viennent les interpeller à Boussy-Saint-Antoine. Sarah, 23 ans, blesse un policier avec un couteau de cuisine. C'était l'une des affaires qui avait conduit à réévaluer le rôle des femmes dans la mouvance djihadiste. Les services antiterroristes avaient tendance à considérer qu'elles suivaient leur mari en Syrie et restaient cantonnées aux tâches domestiques. Le procureur de Paris, François Molins le confirme alors. Le groupe État islamique fait aussi des femmes des combattantes.
Sarah Guibaudot, la piste de la drogue pour expliquer l'attaque au couteau dans le nord de Paris hier soir. L'homme qui a blessé 7 personnes était connu pour consommer du crack. L'une de ses victimes est toujours dans un état critique.
Le blues des éleveurs cette année, Florence.
Et oui, cette année, on va l'entendre dans les allées du SPAS, le grand salon professionnel agricole de Rennes. Est-ce l'effet des messages de santé publique ou bien l'effet des messages écologiques? Les Français consomment beaucoup moins de viande, 12% de moins qu'il y a 10 ans. Parole d'agriculteur dépité au micro de Laurent Kramer à Rennes.
Comment survivre et augmenter ses revenus alors que la consommation de viande décroche dans la population française? La situation n'a jamais été aussi complexe pour les éleveurs, souligne Jean-Pascal Béranger qui élève 100 de vaches limousines en Haute-Loire.
Aujourd'hui, avec cette baisse de consommation, on a l'impression que les gens n'y croient plus beaucoup. Dans les campagnes, je vends beaucoup de reproducteurs et on voit que les gens n'y croient plus. Mais on sent une désespérance là, de plus en plus. Pour les plus jeunes, ça va être très très compliqué de s'adapter.
À seulement 25 ans, Quentin Dupuis vient de reprendre de son côté l'exploitation familiale de vaches partenaises dans les Deux-Sèvres sans savoir de quoi sera fait l'avenir.
C'est vrai que les années devant nous sont pas évidentes avec tout ce qui est les végans, les anti-viandes qui font que de nous casser entre guillemets. Mais bon, nous éleveurs, ce qu'on souhaite, c'est on est prêt à faire du bon, on est prêt à faire ce qu'il faut, mais il faut qu'à l'autre bout, qu'on soit rémunéré à notre juste valeur.
Seuls les labels de prestige ou bio permettraient aux éleveurs de ne plus vendre à perte. L'avenir n'est pas si simple que cela, estime Dominique Talon, éleveur en Vendée.
Bon, j'ai rien contre les bio, mais enfin, attendez, tout le monde ne mangera pas que du bio. Et si tout le monde se met dans le bio, les prix vont baisser, systématiquement. Ils reviendront au prix du conventionnel.
Face à ce casse-tête, les éleveurs attendent plus que jamais que les industriels et la grande distribution adoptent enfin des prix rémunérateurs pour leur production.
Enfin, où aller au spectacle, Nicolas, avant de manger une entrecôte ou un steak de tofu au choix?
Je jeûne.
Pourquoi pas à la Scala, après votre jeûne ou avant, Nicolas, la Scala, qui rouvre ce soir. C'est un théâtre parisien qui était fermé depuis 10 ans, l'un des plus vieux de la capitale, Stéphane Capron, né en 1873.
La première propriétaire du théâtre lui donne ce nom car elle admire la Scala de Milan. De son ouverture jusque dans les années 30, c'est le café-concert le plus couru de Paris. On y applaudit les stars de l'époque, Aristide Bruand et Félix Mayol.
Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah
en 36, la Scala se transforme en cinéma art déco. On s'y presse pour voir des films en exclusivité comme ceux de Jacques Tati. En 77, il devient le premier multiplex de Paris, 800 fauteuils, 5 écrans, mais on y diffuse des films pornographiques. Puis la Scala est vendue à une église baptiste brésilienne et ferme ses portes en 2006 jusqu'à ce coup de cœur de Frédéric Biessy, producteur de théâtre, et de sa femme qui le rachète pour en faire un théâtre différent.
Plus on avance et plus on a l'impression que ça recule. Tel théâtre, ça sera que de la danse, tel théâtre, ça sera que du théâtre contemporain, là, ça sera que des auteurs vivants. Là. Mais pourquoi ? C'est complètement absurde. Donc pourquoi dans une salle, on ne ferait pas croiser Annette Messager, Philippe Manoury, Richard Peduzzi ? Le côté pas fou de ce projet, c'est ça.
La Scala ouvre avec un spectacle de cirque imaginé par Johann Bourgeois, mais il y aura aussi de la musique classique ou électro, comme avec le compositeur Francesco Tristano.
Je crois qu'entre le rap de Besancenot, Viens Poupoule, et l'électro, on a fait la synthèse, Nicolas.
C'est une playlist d'enfer pour
l'ouverture de la Scala, donc ce soir à Paris.
Merci Florence Paracuelos.